et je vous redonne tout de suite la parole pour votre présentation sur les finances publiques, crise et essor des finances publiques dans la France du bas Moyen Âge.
Merci. Donc justement, hein, j'ai conçu les deux interventions comme devant évidemment s'articuler. Alors, dans le cadre de cette intervention, je ne vais pas parler d'approvisionnement, mais je vais parler des finances publiques. Et donc, j'aimerais revenir sur l'essor de la fiscalité étatique dans le Royaume de France au bas Moyen Âge, donc de la fin du XIIIe à la fin du XVe siècle. C'est en effet à partir des dernières années du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, que se développe une fiscalité monarchique qui, si elle est d'abord présentée et considérée comme extraordinaire, et pourtant peu à peu pérennisé très rapidement en fait au XIVe siècle, puis en droit avec la décision prise en 1439 par Charles VII de rendre permanente la taille royale. Or, le développement de la fiscalité royale a plusieurs liens avec la notion de crise. Premier lien parce qu'il trahit une crise de croissance de l'État en imposant des prélèvements nouveaux auxquels la population n'était guère habituée, et puis aussi parce qu'il prend place également dans ce que j'évoquais à l'instant, à savoir un contexte de crise économique, celle qui commence à la charnière des XIIIe et des XIVe siècles, à des moments variables de son région. Autrement dit, la fiscalité royale contribue à accentuer, hein, sur un plan qu'on peut qualifier de microéconomique, les difficultés du temps. Vous le savez, il faut ajouter évidemment la guerre, la peste, hein, les épidémies de peste, etc., etc. Alors, une fois posées ces remarques préliminaires, j'en viens aux mutations structurelles qui touchent les finances publiques en France à la fin du Moyen Âge. Auparavant, le prélèvement se fait dans le cadre seigneurial, donc en vertu du dominium, la domination qui est exercée par le seigneur sur ses dépendants. Ainsi, le roi de France, lui-même à la tête de ce qu'on appelle son domaine, hein, domaine royal, peut imposer des taxes sur ses dépendants, mais il ne peut le faire sur les dépendants de ses vassaux. Donc, il y a deux éléments qui vont l'amener à élargir la population contribuable que la fiscalité peut toucher. Et le principal des facteurs, c'est la guerre. Donc, dès la fin du XIIIe siècle, avant même le début officiel de la guerre de Cent Ans, Philippe le Bel est confronté à la crise des Flamandes, pardon, et également aux Anglais qui refusent la suzeraineté de la France, notamment dans le duché d'Aquitaine. Donc, dans des guerres qui sont amenées à durer de plus en plus longtemps et où les effectifs augmentent, le roi ne peut plus se contenter du vieil hoste féodal. Il faut donc payer des soldats de plus en plus nombreux sur des périodes de plus en plus longues, et dans cette perspective, les finances publiques traditionnelles ne suffisent plus. Donc ça, c'est le principal facteur, c'est vraiment le facteur essentiel pour comprendre le développement de la fiscalité royale. Puis il y a un autre facteur qui est plus secondaire, mais qui est tout de même réel, c'est l'augmentation des dépenses curiales au sein de l'hôtel du roi. Et on se rend compte que cet hôtel royal a besoin de plus en plus d'argent et que les ressources habituelles ne suffisent plus. Donc, en quelques décennies, on voit l'état des finances royales qui bascule totalement. Au XIIIe siècle, ces finances royales bénéficient de l'incorporation au domaine royal de la Normandie, qui est conquise sur les rois d'Angleterre, sur les Plantagenets, et aussi du Languedoc, que j'ai étudié dans ma thèse, où les Capétiens se sont substitués aux anciens seigneurs qui ont été décimés lors de la croisade contre les Cathares, pour simplifier. Bref, au XIIIe siècle, la situation des finances publiques est excellente. À certaines périodes du siècle, à partir des rares pièces comptables dont on dispose, on arrive à montrer, ce qui ferait pâlir d'envie n'importe quel ministre des Finances d'aujourd'hui, on arrive à montrer donc que les rois arrivent à thésauriser le tiers des recettes. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas de dette. Sous le règne de Philippe le Bel, qui s'étend de 1285 à 1314, la situation est beaucoup plus mouvante. Selon les années, on a une balance qui est soit un petit peu déficitaire, soit un petit peu excédentaire. Et ces évaluations, elles sont par ailleurs rendues quand même très compliquées en raison de la forte instabilité monétaire. Vous connaissez la réputation de roi faux monnayeur qui colle évidemment à Philippe le Bel. En revanche, 30 ans après, dans les premières années du règne de Philippe VI de Valois, les finances sont clairement et définitivement déficitaires, et ce, indépendamment même du contexte militaire. J'y reviendrai après, mais les quelques chiffres globaux dont on dispose pour le début des années 1330 correspondent à des années de paix relative. Ainsi, on passe de la fin du XIIIe siècle à celle du XVe, d'un État qu'on qualifie de domanial à un État que l'on qualifie de fiscal, un État fiscal dans lequel la proportion des revenus ordinaires et celle des revenus extraordinaires tend à s'inverser. Au cours des quelques années de paix qui subsistent au début des années 1330, avant le début de la guerre de Cent Ans en 1337, les revenus ordinaires représentent encore 85% des ressources des rois de France. En 1413, déjà, le rapport est inversé. Et dans les années 1480, à la fin du règne de Louis XI, l'ordinaire, les ressources domaniales, ne correspondent plus qu'à 2 ou 3% seulement des revenus royaux. Alors, une telle évolution, elle va de pair avec l'augmentation des sommes qui sont brassées. Dans les premières décennies du XIIIe siècle, on a des recettes qui sont entre 150 et 250 000 livres tournois. Sous Philippe le Bel, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, le chiffre double, on est à 500 000 livres. Et enfin, à la fin du règne de Louis XI, on est prêt à près de 5 millions de livres qui rentrent annuellement dans les caisses du roi. Le système fiscal se met en place progressivement et repose à la fois sur des impôts directs et des impôts indirects. Donc, c'est la fameuse triade taille, aide, gabelle. Et plusieurs étapes peuvent se distinguer. Si on considère les impôts directs, notamment dans le Midi que j'ai étudié dans ma thèse, contrairement à une tradition historiographique qui date l'essor de la fiscalité royale du début de la guerre de Cent Ans, en réalité, c'est deux générations plus tôt, au cours des années 1290, que le système des impôts directs se met en place. Il est ensuite très facilement réactivé au fur et à mesure que les épisodes guerriers se multiplient et deviennent pérennes. Alors on a un impôt qu'on appelle le fouage, qui est l'ancêtre de la taille dans le Midi, qui est un impôt très pratique parce que cet impôt il est sous-traité par l'État il est sous-traité aux communautés locales. Et la seule information fiscale qui est finalement nécessaire à l'État, c'est le nombre de foyers de chaque communauté, de chaque localité, qui sert à établir le montant global. Et une fois qu'on a ce montant global, eh bien, les localités se débrouillent et répartissent l'impôt auprès des contribuables. Donc c'est un impôt finalement qui nécessite assez peu d'informations du point de vue de la gestion. Alors, les impôts indirects font l'objet de recherches plus tâtonnantes, mais sous le règne de Jean le Bon, notamment avec l'ordonnance de 1360, les taxes sur la consommation, ce qu'on appelle les aides, et puis la gabelle, sont durablement installées, notamment à la suite du paiement de la rançon de Jean le Bon, capturé lors de la bataille de Poitiers en 1356. Alors, ces importantes mutations, elles ont impliqué la construction et l'utilisation de nouveaux outils. Des outils théoriques, tout d'abord. Il a fallu justifier aux yeux de la population la levée d'impôts sur toute la population du royaume et non plus seulement, comme je vous disais, sur les habitants des seigneuries royales. Pour cela, les légistes ont puisé, entre autres, dans les doctrines qui circulent à l'Université de Paris à l'époque, chez les intellectuels du temps, et l'argument principal, c'est celui de la nécessité, en d'autres termes, la nécessité de la défense du royaume. En combattant, le roi n'est pas seulement au service de sa seigneurie, mais tout le pays. Ainsi, en schématisant à très gros traits, on passe d'un roi féodal, dont le pouvoir est certes au sommet de la pyramide, mais médiatisé par les différents vassaux et arrière-vassaux, pour atteindre l'ensemble des dépendants, à un roi souverain dont le pouvoir s'exerce directement sur l'ensemble de ses sujets. La doctrine reste cependant encadrée par l'adage aristotélicien selon lequel « causa quesante, quesat effectus ». Une fois que la cause de la fiscalité, de l'imposition a disparu, eh bien, l'impôt doit à son tour disparaître. Donc, ces nouvelles impositions, elles ne peuvent être gravées dans le marbre. En théorie, elles doivent garder un caractère extraordinaire. Donc, on a déjà vu ce qu'il en était, en réalité, avec un conflit qui s'étend jusqu'au milieu du XVe siècle. Alors, ce n'est pas le seul argument qui est utilisé. Il y a un autre qui paraît beaucoup plus surprenant, beaucoup plus sentimental, qui est visible dès le XIVe siècle, mais qui est de plus en plus utilisé, notamment sous Louis XI, c'est l'amour. C'est l'amour que les sujets doivent à leur souverain et en vertu duquel ils doivent payer des impôts. Donc, cependant, à côté de ce travail théorique et discursif de légitimation, la monarchie met aussi en œuvre plusieurs démarches pour assurer l'efficacité du système fiscal. Alors, quelques pistes que je résume très brièvement. D'un point de vue juridique, d'abord, on a une chambre des comptes, qui est l'ancêtre de la cour des comptes napoléonienne, qui voit progressivement le jour. Elle est perceptible comme une extension du trésor à partir des années 1290, et elle est définitivement attestée et mise en place, si on veut, par l'ordonnance du Vivien en Brie qui est publiée en 1320 par le roi Philippe V. Donc, je parle ici d'un outil juridique parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dès le départ, comme aujourd'hui, la Chambre des comptes, c'est un tribunal et que la vérification des comptes, c'est un jugement. D'accord ? D'un point de vue administratif, ensuite, on constate que la fiscalité permet de mieux contrôler le territoire en développant les officiers financiers et les circonscriptions qui vont avec. Pour reprendre l'exemple du Languedoc, si la circonscription de base pour les impôts directs est ce qu'on appelle la sénéchaussée, sorte de préfecture si vous voulez, on note une tentative sous les derniers capétiens d'instituer un échelon financier inférieur au niveau de ce que on peut qualifier pour simplifier de sous-préfecture. Donc il y a des efforts pour mieux contrôler le territoire et renforcer l'appareil administratif. Et enfin, il y a un dernier effort qui est lancé au niveau documentaire. On a de nouveaux types de documents qui sont créés, quoique avec parfois une postérité complexe et douteuse, notamment sous Philippe de Valois. Et il y a un texte très célèbre, hein, le célèbre État des paroisses et des feux de 1328, qui récapitule l'ensemble des foyers, sinon du royaume tout entier, du moins du domaine. Et donc, un tel document permet d'anticiper le montant de l'impôt que l'on peut lever sur la population et ainsi, le cas échéant, d'ajuster la quotité qui est demandée à chaque communauté. Alors, un second type de document qui n'aura pourtant pas dans l'immédiate postérité est ce que l'on peut qualifier en simplifiant de budget. Ça peut paraître surprenant, mais on n'a quasiment aucun document assimilable à ce qu'on appellerait aujourd'hui un budget, qui permettrait d'anticiper la gestion des finances publiques. Il faut attendre 1332 pour voir établi un premier budget, entre guillemets, de la monarchie française, qui récapitule l'ensemble des recettes et des dépenses. C'est justement, hein, grâce à ce document que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on sait que c'est aussi en raison du déficit de l'hôtel et en raison des dépenses de cours qu'on est obligé de lever davantage d'impôts. Alors pour autant, malgré ces progrès indéniables, le développement du système fiscal monarchique connaît des limites tout aussi flagrantes. Tout d'abord, la lenteur avec laquelle le principe d'un impôt permanent est finalement reconnu. Il faut, entre Philippe le Bel et Charles VII, un siècle et demi avant que l'extraordinaire se transforme en ordinaire et que la fiscalité royale soit pérennisée de manière vraiment définitive. Les rois ont dû argumenter sans relâche dans le cadre des assemblées d'État, au niveau du pays, au niveau de la Languedoc, ou encore au niveau des provinces. Donc là, on a l'ancêtre du système des États qui va durer jusqu'à la Révolution. Les représentants du roi, par conséquent, se sont vus opposer un contrôle de leurs actes et de leur politique fiscale. Les impôts, évidemment, ont été contestés. On peut, pour aller vite, hein, évoquer la flambée de révolte de la fin des années 1370 et du début des années 1380 à Rouen, à Paris, dans le Midi. Et ces révoltes, hein, s'inscrivent dans un contexte même européen, puisqu'on a aussi des troubles en Angleterre, à Florence, etc., etc. Donc en 1380 précisément, sur son lit de mort, le roi Charles V abolit les fouages, abolition qui sera toute provisoire puisque 3 ans plus tard, ils sont rétablis. Par ailleurs, on est frappé, lorsqu'on étudie l'histoire financière et fiscale de la France à la fin du Moyen-Âge, par l'impréparation et l'improvisation chronique dont témoignent les rois et leurs officiers. De fait, si j'ai parlé plus haut pour simplifier d'un premier budget de la monarchie en 1332, il faut savoir que cette première tentative n'a été suivie par un second témoin documentaire qu'en 1344. Et on est sûr qu'entre les deux, hein, ça figure dans les documents, il n'y a pas eu d'autre budget pendant 12 ans. D'accord. Puis, pour tout le reste du siècle, on n'a plus rien. Donc, il y a 2 budgets pour un siècle entier. Donc, il y a une incapacité tout de même à maîtriser l'information financière, que l'on retrouve aussi dans les listes de feux. Je vous parlais de l'état des paroisses et des feux de 1328, mais il faut savoir qu'il y a la peste qui passe par là et que par conséquent, toutes les informations deviennent caduques. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'il faut parfois attendre 2 épidémies de peste, avec toutes les conséquences démographiques que l'on imagine, pour que les bases fiscales soient révisées. Dans la région de Carcassonne que j'ai étudiée, les habitants continuent à être imposés sur les bases fiscales de 1328, encore jusqu'à la fin des années 1360. Il faut attendre quasiment 40 ans pour que l'information soit modifiée. Donc, vous comprenez bien que ça entraîne mécaniquement, évidemment, la part de l'impôt qui rejaillit sur les contribuables. Et enfin, un dernier point que je souhaiterais aborder aujourd'hui concerne les recherches en cours que j'effectue sur la dette publique. Et ce dernier sujet rend bien compte des paradoxes des finances publiques dans la France du bas Moyen-Âge, puisque je ne vous apprendrai rien en vous disant que le roi est perpétuellement endetté, mais pourtant on doit relever l'inexistence jusqu'au début de la Renaissance d'un véritable système de dette publique, c'est-à-dire d'un système de dette consolidé et titrisé. Une telle dette se rencontre parfois ici ou là dans certaines villes, mais de manière extrêmement limitée. Au niveau central, l'institution qui ressemble le plus à la dette publique, ou à de la dette publique, correspond aux rentes qui sont dues par le roi et assises sur le domaine. Il existe des rentes qui sont à héritage, à vie ou à volonté, et c'est un système, ces rentes, qui viennent récompenser une fidélité. Et donc, ces rentes assises sur le domaine sont un outil politique. En réalité, c'est moins un outil financier qu'un outil politique. Or, on se rend compte que ce système, qui se rapproche le moins mal d'un système de dette publique, ne fonctionne pas. À plusieurs reprises, pendant la guerre de Cent Ans, notamment dans les années 1350-1360, qui sont des années très difficiles pour les Valois, ou encore dans les années 1440 sous Charles VII, le roi n'est plus en mesure de garantir le paiement des rentes. Il y a donc un problème de fiabilité, pardon, et de crédit au sens premier du terme. La monarchie prélève, mais ne rend pas. En tout cas, ne rend pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, il y a, semble-t-il, aucun signe de confiance en la capacité de remboursement du roi. Il est significatif de ne trouver dans le discours intellectuel, dans le discours théorique, universitaire, qu'un faible nombre de sources utiles à la compréhension de la dette publique. Il y a un passage dans Nicolas Aurem qui conseille au prince d'emprunter plutôt que de dévaluer la monnaie, mais il ordonne, évidemment, il conseille de rembourser la dette. C'est une mention très, très brève. N'a pas d'autre. Dans un continuateur de Thomas d'Aquin, Ptolémée de Luc, lui, il est défavorable à l'emprunt tout simplement parce qu'il estime qu'il est impossible pour le roi, si je simplifie, de rendre l'argent. Alors, on a la faiblesse d'un corpus théorique qui n'empêche pas les souverains d'emprunter, mais à court terme. Cependant, c'est toujours un impôt déguisé, parce que les prêteurs qui sont issus du monde de la banque et du commerce se remboursent directement sur la population en étant nommés à des fonctions financières. Et donc là, on peut voir très certainement, c'est une piste à creuser, une des origines du système de la vénalité des offices. Donc du coup, on a vraiment un système de dette publique qui est inexistant. Il y a également, et je m'arrêterai là-dessus, des oppositions théoriques. C'est le fait que la dette publique, évidemment, coûte de l'argent et que le discours de roi, c'est de dire « je lève des impôts parce que je défends, parce que je paye des soldats, parce que je défends le royaume ». Il n'est pas normal que ce système ne coûte de l'argent. Et puis, il y a aussi un dernier problème théorique qui est d'ordre juridique. Alain Bourreau a bien montré qu'à l'origine de la dette publique, les monastères jouent un grand rôle. Parce que pour qu'il y ait une dette publique, il faut que l'institution reconnaisse de génération en génération la validité des titres. Et les monastères jouent un grand rôle dans la dette publique parce que les monastères ne meurent jamais en tant qu'institution. Donc ça rejoint le débat sur la personne morale. Et on se rend compte que les rois de France, à la fin du Moyen-Âge, ont encore du mal à sortir d'un cadre purement personnel pour arriver à une véritable personne morale. Et donc, on voit assez régulièrement des rois de France qui refusent de se porter garant pour les dettes contractées par leurs prédécesseurs. Voilà, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup. Je ne vous ai pas interrompu, mais je demanderai bien à vos successeurs d'essayer de se tenir à ces contraintes. Il y aurait beaucoup, là aussi, de choses sur lesquelles, je pense, nous reviendrons dans le débat. L'enjeu des constructions argumentaires justifiant ce type de pratique, l'évolution des institutions, la question de l'étude de l'histoire de la dette, c'est une question qui a souvent été au cœur des travaux de la FHE, et c'est logique aussi qu'on les retrouve aujourd'hui. Et puis, vous avez bien rappelé le lien entre ce type d'outils et de fiscalité et les enjeux plus politiques qui sont inhérents.